Bonsoir, cher Antoine.
Bonsoir, Arnaud Laporte. Bonsoir à toutes et à tous. Les prix Nobel se suivent et ne se ressemblent pas tant que ça, considère Grégoire Leménager sur Bibliops, le site d'actualité littéraire de l'Obs. On imagine assez mal, en effet, Patrick Modiano utilisant Twitter pour annoncer lui-même que l'Académie de Stockholm est sur le point de lui attribuer le Saint Graal des écrivains. C'est pourtant ce qu'a fait quelqu'un se présentant comme la Biélorusse Svetlana Alexievitch deux petites heures avant la proclamation officielle hier à 13h. Je cite le tweet « L'Académie suédoise m'a décerné le prix Nobel de littérature 2015. J'ai reçu à l'instant un appel de Suède. Je suis heureuse, très heureuse. Merci. » S'agissait-il ou pas d'un fake, d'une boulette sans doute motivée par la joie et l'enthousiasme, comme le pensent les échos? Il s'avère, d'après le compte Twitter en question, qu'il s'agit en fait d'un canular signé du journaliste italien Tommaso De Benedetti. Toujours est-il, poursuit Grégoire Leménager, que de la part des jurés du Nobel, ce choix est clairement une manière de renouer avec une vieille tradition, celle qui consiste, à la frontière de la littérature et de la politique, à couronner un écrivain engagé et donc par la bande les valeurs qu'il défend. Le haïku avec lequel ils ont très officiellement justifié leur décision est d'ailleurs assez éloquent comme ça. S'ils ont couronné Svetlana Alexievitch, c'est pour son œuvre polyphonique, mémorial de la souffrance et du courage à notre époque. En l'occurrence, Svetlana Alexievitch n'est pas n'importe qui, surtout dans le climat de néo-guerre froide, entretenu par le nationalisme d'un certain Vladimir Poutine. On en parlait encore hier soir côté musique. Née en Ukraine en 1948, journaliste et écrivain, auteur en 2013 d'une somme, La fin de l'homme rouge ou Le temps du désenchantement, qui lui avait valu de décrocher en France le prix Médicis Essai, cette grande dame a en effet consacré l'essentiel de son œuvre à restituer la mémoire du monde soviétique. 5 de ses livres ont ainsi eu un succès considérable dans son pays, parmi lesquels Les cercueils de zinc sur la guerre d'Afghanistan, Ensorcelés par la mort sur les suicides qui ont suivi la chute de l'URSS et La supplication sur Tchernobyl. Ce livre, précise Le Point, est interdit en Biélorussie, l'un des pays les plus touchés par les conséquences de Tchernobyl où le sujet est tabou. Sans surprise, Svetlana Alexievitch n'a en effet pas voix au chapitre dans ce pays dirigé depuis 20 ans d'une main de fer par Alexandre Loukachenko. Ses livres, qui selon elle ne plaisent pas au président, y sont introuvables dans les librairies. Nous vivons sous une dictature, des opposants sont en prison, la société a peur et en même temps, c'est une société de consommation vulgaire. Les gens ne s'intéressent pas à la politique, l'époque est mauvaise, déclarait-elle en 2013 à l'agence France Presse. Les intellectuels biélorusses apprécient moyennement les opinions de cet auteur qui d'un côté se réclame de la culture russe quand eux cherchent à s'en démarquer et de l'autre vit la plupart du temps en Europe occidentale, un monde pour lequel ils éprouvent un mélange d'attirance et de répulsion. Les lecteurs français n'auront en tout cas aucun mal à découvrir cet auteur, hasard, prémonition ou taupe bien informée. La Biélorusse était de toute façon la grande favorite cette année avec une cote de 5 contre 1. Les éditions Actes Sud qui publient Svetlana Alexievitch font paraître ces jours-ci un volume de quelques-uns de ses titres, précise Le Figaro, qui a envoyé Mohamed Aissaoui enquêter sur le long processus savamment codifié qui pourrait s'apparenter à un marathon avec des haies de sélection du lauréat. En fait, tout a commencé en octobre de l'année passée, explique Jesper Svenbro, l'un des 18 membres de l'Académie suédoise qui désigne le futur Nobel de littérature. On reçoit des centaines de propositions du monde entier. Nous faisons très attention à cette longue liste composée d'auteurs signalés par des personnalités ou des institutions autorisées, entre guillemets. Les anciens lauréats ont ainsi le droit de proposer leurs favoris, mais également les membres de l'Académie et des académies sœurs, comme l'Académie française, les professeurs d'université, notamment ceux dont le domaine est la littérature comparée ou les langues. Les grandes institutions littéraires nationales peuvent donner des pistes, les pen clubs, la Société des gens de lettres, etc. Toutes ces propositions arrivent à Stockholm, c'est une entreprise galactique, souligne Jesper Svenbro, une entreprise qui aboutit à une sélection de 200 à 300 auteurs. Fin janvier, on arrête cette première liste, on en parle lors d'une réunion, mais on n'a pas le droit d'amener cette sélection chez nous. Ensuite, c'est au tour d'une commission baptisée Comité Nobel, composée de 5 membres de travailler. Elle effectue un écrémage pour ne garder qu'une vingtaine de noms. Les autres académiciens peuvent critiquer ou ajouter des noms, mais fin avril, on sait entre quels auteurs cela se jouera. Lors de la dernière réunion du premier semestre, qui se tient à la fin du mois de mai, l'Académie suédoise ressort avec la fameuse shortlist, 5 noms. L'été est consacré à la lecture, mais ce n'est pas forcément fastidieux. Les lauréats potentiels revenant d'une année sur l'autre, les académiciens ne font pas que découvrir. Le jeudi 17 septembre 2015, l'Académie fait sa rentrée. Seul le président du comité comité Nobel et ses 5 membres ont le droit de parler. Ils présentent oralement et par écrit les 5 candidats. Le 24 septembre, tous les autres membres, ils sont 18, en temps normal, ont le droit de donner leur avis. Pour être convaincants, ils ont intérêt à avancer des arguments solides et mieux vaut les écrire. Ces précieuses fiches sont archivées. C'est ainsi qu'on a appris que De Gaulle avait figuré dans la liste des candidats au Nobel de littérature. Ce 1er octobre, au premier étage du plus vieux restaurant de Stockholm, nommé la Paix Dorée, restaurant conseillé par le guide Michelin, les académiciens se sont installés à la longue table qui peut accueillir 18 personnes. Chacun possède un verre de schnapps qui date du 18e siècle, gravé à son nom. Ce jour-là, les présents ont délibéré. Pour être désignés, il fallait 7 voix et c'est Svetlana Alexeyeva. Gloire à elle qui les a eues et avec elle un coquet chèque de 855 000 euros.